Sans doute, le rituel de la nouvelle année a-t-il pour vertu première de nous faire croire au renouveau ? Le printemps existe, pourquoi pas le nouvel an ? Même s'il suffit de quelques jours après le premier pour se persuader que 2025 restera dans la continuité de 2024. Au cœur du noir, chercher la lumière, c'est ce à quoi s'efforce l'astronome qui contemple les étoiles et l'artiste qui regarde le monde. C'est ce que fait l'enfant à sa première seconde, il voit le jour. Alors au lieu de rabâcher « bonne année », les buissonnières vous présentent aujourd'hui Vincent dit Tancrède qui cherche la lumière.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni.
Salut Virginie.
Bonjour Tancrède. Pourquoi ce pseudo ?
Eh bien, c'est un pseudo qui n'en est pas un, puisque c'est aussi un de mes prénoms, parce que je m'appelle Vincent, Pierre, André et Tancrède. Et c'est mon père qui était un fou furieux d'opéra. C'était Puccini, si je ne me trompe pas. Et il y avait aussi un moment où le guépard était revenu. Donc, ils avaient pensé aussi à Tancrède, le comte de Tancrède, qui était joué par Alain Delon. Un comparatif qui m'a toujours fait mal, physiquement. Mais j'ai toujours aimé ce prénom.
Mais quand même, tu es plus intelligent que lui.
En tout cas, j'ai pas les mêmes idées que lui, ça c'est sûr. Donc voilà, enfin c'est venu comme ça. Et puis je l'ai pris quand j'ai démarré ma petite carrière de journaliste. En fait, je me suis dit tiens, j'ai toujours aimé ce prénom-là, je vais l'utiliser. Je sais pas où je pourrais l'utiliser autre part. Donc on y va.
Oui, c'est un très beau prénom. Moi, je trouve que il marque les esprits. Dans mon esprit, tu es plus Tancrède que Vincent.
Eh bien, je prends très bien.
Parce qu'il y a beaucoup de Vincent, et des Tancrèdes, je n'en connais qu'un autre.
Qui ça, c'est qui l'autre ?
Ah, l'autre, c'est le fils d'un copain qui adore l'opéra.
D'accord. Non, mais c'est bien parce que moi, je n'en connais pas d'autres, c'est pour ça que je pose la question.
Voilà.
Donc, oui, bah, et en plus, je suis très content que tu préfères ce prénom-là, parce que je l'ai un peu abîmé avec cette vie de journaliste où je parlais à des entrepreneurs où je parlais que d'économie ou de gens qui étaient très fiers d'avoir récupéré des centaines et des parfois même des millions d'euros, et que moi ça me désespérait à la fin, et que en fait les gens me connaissaient dans ce petit milieu là par le prénom de Tancrède. Et donc j'étais content quand je suis reparti de plus l'utiliser, donc de le mettre un peu dans la jachère, et donc d'imaginer que je le fais revivre par quelque chose d'autre, et en tout cas par toi, ça me fait vraiment plaisir.
Parce que si je reviens à l'écriture, et si je comprends bien ce que tu dis, en fait, c'est la sphère journalistique dans laquelle tu as travaillé qui t'a complètement écœuré.
Oui.
C'est pas l'écriture journalistique en tant que telle.
Pas tellement, mais c'était dur pour moi, l'écriture journalistique, quand même beaucoup, beaucoup plus jeune. Et puis même si on écrit, mais en fait, on ne sait pas du tout écrire. Puis il y a un rythme, puis il faut écrire d'une certaine façon. Puis à chaque fois, on a envie. En tout cas, moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Alors qu'en fait, c'était une bêtise, parce qu'il faut répondre à un exercice, il faut le faire. Et pas se dire, OK, où est-ce que je mets cette virgule, où est-ce que je mets ce point-là. Et j'avais toujours cette obsession de la transition, alors qu'en fait, enfin, il ne faut pas se poser de questions. Enfin, beaucoup, beaucoup moins que, en tout cas, moi, je m'en posais. Du coup, je pense que même ce que je produisais à l'époque n'était pas terrible, même si, paradoxalement, c'était indispensable. Parce que je pense sincèrement qu'il faut passer par un côté marécageux dans l'écriture, et à un moment donné, pour pouvoir s'oublier, pour pouvoir arrêter de penser qu'on est en train d'écrire. Et donc ça m'a servi aussi en même temps à ça, même si ça a été vraiment beaucoup de souffrance d'être là-dedans, plus de sentir qu'on aime bien l'exercice, mais on n'est pas bon à cet exercice-là.
Tu veux dire pas bon dans cet espace journalistique, c'est-à-dire qu'on te reprochait d'être trop littéraire, de faire trop attention à la forme, peut-être.
Peut-être trop attention à la forme, de prendre aussi trop de temps, de pas savoir écrire assez vite aussi, beaucoup. Et, et c'était vrai, hein, c'était vrai. Et donc oui, et de vouloir toujours parler d'un peu d'autre chose, quoi. C'était pas plutôt que de parler pognon, je voulais parler d'un petit truc derrière, mais je m'en rendais même pas compte, mais c'était je voulais qu'il y ait quelque chose d'autre, un petit peu différent.
Tu cherchais la lumière.
Bah maintenant que tu me le dis, voilà, mais je m'en rendais même pas compte du tout à l'époque.
Et tu travaillais pour les Échos, pour un des journaux économiques comme ça.
J'aurais voulu être à ce niveau d'importance. Non, j'étais sur un tout petit site internet pure player, c'est-à-dire qu'il était sur internet et on parlait que des entrepreneurs. Je sais même pas si ce site encore existe aujourd'hui. Et en tout cas, je sais qu'il a été racheté, que ça a changé, tout ça. Mais c'était le début de l'écosystème entrepreneur du début des années Hollande. Donc, c'était vraiment un nouveau milieu qui était en train d'émerger. Donc,
la Startup Nation.
Ouais, exactement.
Avant Macron.
Avant Macron. Mais j'ai vu venir Macron et j'ai vu comment il était aimé par tous ces gens-là. Et donc, c'est vrai que dès le départ, même si j'ai jamais pensé qu'il pouvait arriver à l'Élysée à l'époque, je me disais quand même, lui, il est vraiment spécial pour être autant adoré par toutes ces personnes-là. Bon, après, voilà, pour l'importance que ça a, quoi. Mais c'était un monde très particulier et qui vraiment préfigurait l'avenir, quoi. Quand j'y repense, je me dis, ah oui, bah oui, ça explique tout ce qui arrive par la suite, tous les choix. Toute cette philosophie même du politique, mais dans le sens organisation de la cité, cette injonction à la responsabilité individuelle, enfin voilà, c'était du Thatcher, mais totalement réchauffé au micro-ondes, dans du plastique, enfin tout ce qu'il faut pas, quoi. Voilà, c'était vraiment ça tout le temps. Et
déjà Thatcher, c'est pourri, mais alors réchauffé au micro-ondes dans le plastique.
Exactement, mais avec des beaux mots à la française, de dire on va aider les gens à s'aider eux-mêmes et tout, et pour finalement
faire de la merde.
Voilà, exactement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Même si, d'un autre côté, il y a toujours plein de choses intéressantes. J'ai rencontré des gens très, très intéressants. Je regrette pas. Je regrette pas, même si je suis content que ça soit loin, loin, loin derrière moi et d'être là où j'en suis. Ici, à Bédarieux.
Alors, si je prends ton destin dans l'autre sens, qu'est-ce qui, avant ton expérience journalistique, faisait que tu t'étais orienté vers un certain type d'écriture ? Est-ce que dans l'enfance, dans l'adolescence, il y avait quelque chose qui maturait de ce côté-là ?
Moi, je crois que tout est arrivé par l'histoire, pour moi.
Par l'histoire,
par la grande histoire, mais qui était aussi la petite histoire qui s'est beaucoup mélangée dans ma tête. Et c'est vraiment cette volonté de comprendre l'histoire, de comprendre les histoires, et à un moment donné, de pouvoir et vouloir raconter des histoires. Je le dis maintenant, hein, ça a l'air assez simple, mais ça m'a mis 40 ans, et puis il est même à l'instant de pouvoir le formuler comme ça, quoi.
Alors, c'était quoi la petite histoire et la grande histoire ?
Mais en fait, pour moi, ça se mélangeait aux deux. C'est-à-dire qu'il y avait je me souviens même les primaires avec la maîtresse qui a raconté une histoire au Moyen-Âge qui était dans un château fort où il y avait des gens qui étaient habillés d'une certaine façon et qui faisaient des choses. Et que je me souviens très bien de me dire « Ah, j'aime bien cette histoire-là ». Et puis après, quand on explique cette histoire-là, on explique que c'est dans un temps. Et donc, moi, je lisais tout le temps. Je lisais tout le temps des BD, des choses. Mais j'aimais ces histoires-là. Et ces histoires du réel, ces histoires de l'histoire. Donc après, je me suis intéressé à tous les personnages. Enfin, j'étais vraiment un ogre sur toutes les bouquins d'histoire. Pas du tout la littérature, pas du tout le roman. Mais... mais voilà, une boulimie d'histoire. Et je me rends compte que vraiment, en fait, j'ai cru que je m'intéressais à l'histoire, alors qu'en fait, je m'intéressais aux histoires de chacun. C'est ça. Mais je crois qu'avoir compris plein de choses, et en fait, je n'ai jamais rien compris, les choses que je pensais avoir compris. C'est un peu ce qui m'arrive.
Oui, où il y avait deux choses entrelacées, qui étaient que tu croyais t'intéresser à la grande histoire, alors que tu t'intéressais aux petites histoires. Et c'est là le pont vers la littérature, peut-être.
Bah, c'est ça, mais tout ça est de l'ordre de l'inconscient, parce qu'on s'intéresse à quelque chose... Et on se refuse plein de choses. Et donc, on se dit, oui, mais l'histoire, mais c'est pas pour moi, mais c'est pas pour ça. Et en fait, tout mon parcours pour arriver à l'écriture, ça a été une... je me suis refusé beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de... Oui, beaucoup d'instants où j'aurais pu raconter une histoire, quoi. Et encore une fois, je l'ai compris il y a vraiment pas longtemps, quoi. Presque il y a un peu plus d'un an, quoi. Mais...
Et tu l'as compris comment ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an ?
C'est passé qu'il y a un an que, par une amie, on a su qu'il y avait un événement à Bédarieux, et c'était une soirée catch. Et que cette soirée catch, moi j'avais vu du catch quand j'étais petit sur Canal+, à l'époque, donc il y avait tout un florilège, enfin toute une littérature autour du catch américain en plus, donc c'était très impressionnant. Et donc de me dire que j'allais voir une soirée de catch à Bédarieux, ça me plaisait beaucoup, parce que moi j'aime bien faire des trucs nouveaux, voir des gens nouveaux et vraiment de ressentir ça. Donc on est arrivé, mais sans rien attendre, et il s'est passé pour moi une soirée absolument extraordinaire. Ça a duré, je sais pas, une heure et demie, mais je me suis retrouvé dans quelque chose qui dépassait, mais vraiment de très très loin, le catch. Et en fait, instinctivement, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris des notes, que je voulais pas oublier ça. Et en fait, le lendemain, je me suis mis à écrire, mais comme jamais j'aurais pensé écrire quelque chose. Et voilà.
Et tu vas nous lire ce texte.
Et je vais lire ce texte aussi.
Bravo, merci. Le premier, alors.
Le premier.
Le grand déclencheur.
Le grand déclencheur. On ne vient pas à Bédarieux par hasard. Moi, j'ai choisi d'y vivre pour son cause alternatif, ses mouflons hirsutes, je vous raconterai, et son festival de catch. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé que ça soit vrai. Imaginez. Convaincre votre femme avec cet argument massue. Mais si, je t'assure, c'est ici que vit le guerrier végan avec son sabre de poireau. Qui peut résister à cette rhétorique ? Organisé par l'Association française contre les myopathies, non contre les myopathes, comme l'a rappelé une amie après une énième erreur de ma part, ce festival de catch vise à chambouler les codes du Téléthon. Et pour cela, l'organisateur, Monsieur Maximum, a mis le paquet. Christophe Cassagne, le roi de la castagne, Tony The King, un beau bébé, le breton masqué, ou encore le guerrier nucléaire. Trop classe. Et j'en passe. L'ambiance est tout de suite électrique dans la salle des Tuileries. Des « Aou, hey, ouais » volent de tribune en tribune. Bon, d'accord, je survends un peu. Pour le moment, on n'est plus sur une atmosphère de médiathèque un matin de novembre. Mais l'humeur de la salle ne cherche qu'à monter en neige. Au premier rang, un homme massif porte une ceinture de boxe sur l'épaule. Pas loin, derrière, une femme montre des photos d'elle nue à sa voisine. Visiblement, tout peut arriver. Un copain vigneron, lui, échauffé par 5 heures d'entraînement au vin nature, multiplie les harangues avant même de voir le premier combattant. « Ouais, on va pas se laisser faire. Eh, t'as pas d'organes. » Ou alors « Lui, il veut monter sur le ring et se battre. » En levant mon bras, je ris de bon cœur tout en pensant à ma dernière séance de sport, du tai chi. Heureusement pour moi, Mister Maximum ne cherche pas ce soir à improviser. Tout de suite, une dizaine de catcheurs démarrent les hostilités. La règle, c'est tous contre tous. On n'est pas déçus. L'infâme Dr. D se jette sur Gwen Barrick. Il tente de le soulever, mais Gwen a vraiment les dimensions d'une barrique. Et lui, garde la musculature d'un emballage de polystyrène. À côté, le guerrier végan soumet le lion des savanes grâce à son nunchaku de carottes sauvages. Pas impressionnant, mais très efficace. Mais c'est tout ce que j'ai eu le temps de voir. En 3 mouvements, la chorégraphie de ces êtres de lumière s'achève pour laisser la place à ce même Gwen Barrick, grand vainqueur, sans que je comprenne bien comment. Mais qu'importe. Cette fois-ci, la salle est vraiment chauffée à blanc. Le moment idéal aux yeux du maire pour entrer sur le ring et rappeler les vertus du Téléthon et de son action politique. 20 minutes plus tard, la foule peut hurler à nouveau son mécontentement contre cette fois-ci le désagréable duo Brutal Butcher Team, deux frères bouchers qui ne cherchent pas à charmer leur auditoire. « Fermez vos gueules, les moutons !» lance avec insistance le plus trapu d'entre eux. Notre indignation est totale. « Non mais ça va pas », répondent des jeunes filles derrière nous, soutenant ainsi avec ferveur la cause végétarienne. D'autant plus détestable qu'ils vaincront d'une manière totalement déloyale le fier duo de vikings dont j'ai oublié le nom. Plus jamais je ne mangerai de viande. Par chance, princesse Loriana, dans un match enlevé, rétablira l'honneur des gentils en achevant une blonde peroxydée. Mais je ne veux pas me rassurer trop vite. Le malheur commence par une once d'espoir, disait Suran, qui s'y connaissait en pessimisme. Je passe au match final qui oppose le guerrier nucléaire et Super Braise, ou Super Buvette, je ne sais plus. Les deux noms me plaisent. Paré de bandeaux jaunes, zone contaminée, d'un masque à gaz et d'un legging gris fluo, le guerrier atomique fait tout de suite l'unanimité contre lui, à se demander comment on a pu construire une industrie nucléaire dans ce pays. Et puis cet antagonisme entre le mal et le bien, personnifié par la Bretagne, dérouté je suis. Les tricheries du guerrier nucléaire n'aident pas non plus, et soulèvent encore une fois des interrogations sur la qualité de la formation des arbitres de catch de ce pays. Mais bien sûr, les médias regardent ailleurs. Deux poids, deux mesures, vous dis-je. Dans ce tumulte, les enfants du pays ne se retiennent plus. « T'as pas d'organes, t'as pas d'organes !» Mon copain vigneron en a profité pour prendre possession de la foule. Le combat dérape et sort du ring pour aller s'échouer dans les gradins. Personne n'ose les arrêter. Des voix s'élèvent, dénoncent le manque de fair-play manifeste du guerrier nucléaire et plaident pour un nouveau modèle d'harmonie entre les hommes et les Bretons. Mais les digues du pacifisme sont rompues. Drop to hold, arm drag, hip toss, headlock, Super Buvette supplie toute la science catchic de son adversaire du jour. Non, ce n'est pas possible. Encore une défaite. Macron aurait-il donc aussi vendu la notion de bien et de mal à un pays frontalier ? Poussé par la foule, Super Buvette arrive néanmoins à s'extirper de l'étreinte nucléaire. À bout de force, il sollicite l'aide du public qui scande « Buvette, Buvette !» Des larmes me montent aux yeux. Le peuple s'est mis en marche. « On a peut-être perdu au péno, mais on ne va pas perdre cette bataille, Johnny, me dis-je. » C'est à cet instant précis que notre héros renverse le match grâce à une magnifique German suplex. Cris, joie, insultes parcourent la salle des Tuileries de Bédarieux. Le festival s'achève dans l'allégresse. Revenu à la raison, la foule sort attendre ses héros afin de les célébrer par de multiples photos. En oubliant notre rancune, nous décidons de nous réconcilier avec la Brutal Butcher Team, qui en retour nous traite d'aubergine bio. La provocation est un art de vivre chez eux. Bref, je ne pensais pas le dire, mais je crois que j'aime bien le catch.
On a du mal à imaginer ça à Bédarieux.
Pourtant, c'est ça.
C'est extraordinaire. Mais alors, en fait, on entend encore le journaliste, là, parce que tu racontes une soirée. Mais tu es dans cet espace un petit peu à la frontière, comme Florence Aubenas, qui fait des reportages, qu'elle transforme en roman, etc. Et tu es dans cette zone-là, de l'entre-deux.
Là, c'est qu'en fait, genre, je suis plus du tout dans un cadre. Donc, en fait, je me permets tout. Et que même si je pense raconter ce que j'ai vu, je le raconte d'une manière qui me plaît et qui, en fait, ne répond pas à un cadre de productivité, de production, en tout cas, une ligne éditoriale. Et en fait, cette liberté-là me change, quoi. Me change parce que maintenant, genre, je me dis, OK, j'ai envie de faire ça, quoi.
Voilà.
J'ai envie de faire ça. Je sais pas. Dans quel cadre, mais j'ai envie d'écrire.
C'est la liberté, quoi.
Ouais.
C'est la liberté qui te mobilise.
Exactement.
Et est-ce que tu te lances petit à petit dans la fiction ?
Eh bien, écoute, grâce à quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelle Virginie, et grâce à son atelier d'écriture, maintenant, je le dis, mais vraiment en toute honnêteté, je commence à imaginer des histoires véritablement fictionnelles. Et j'en suis... Juste déjà de les imaginer, je suis déjà très content. Parce que si j'avais pas eu ces exercices-là, si j'avais pas pu pouvoir justement dire des textes devant des gens, devant la bienveillance de tout le monde dans ton atelier, et je dis pas ça pour faire de la mauvaise pub, hein, c'est vraiment, je le pense vraiment, ça s'est passé comme ça, je me suis dit, OK, je peux... Voilà, me lancer, imaginer quelque chose où en fait je raconterai mes théâtres intérieurs, je raconterai ce que j'ai un petit peu en tête et tout en fait tout le monde que tout l'univers que finalement j'ai créé sans même
t'en apercevoir.
Voilà, sans même m'en apercevoir.
En vivant, depuis que t'es tout minot.
Exactement.
Parce que moi, ce qui me frappe dans ton texte sur le catch, tu as parlé de ton amour pour l'histoire, les personnages de l'histoire et de l'histoire, et tu as parlé d'une scène au Moyen-Âge de chevaliers, de guerriers, etc. Et ta manière d'envisager le catch, c'est une manière totalement dérisoire, mais on retrouve ces personnages de guerriers, de chevaliers, couilles en avant, et puis avec tout le vocabulaire viriliste qui va avec. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose un petit fil qui court de l'un à l'autre, comme si ça vient de très loin, cette affaire-là.
Et bah, c'est ça, ça vient de très loin. En fait, j'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie du tout d'avoir à faire un exercice. J'aime l'absurdité de la vie, j'aime le côté complètement à côté de la plaque, ça me fait terriblement rire. Il y a que ça qui compte. D'ailleurs, pour moi, je me rends compte, l'amour de ma femme, et puis essayer de faire rire par justement le côté inutile, enfin pas inutile parce que c'est très utile, mais oui, absurde de l'existence, tout simplement, quoi.
Ouais.
Et donc de le faire passer par les filtres de l'histoire, cette couche de conscience intérieure qu'on a tous, qui en plus est à mon avis très français, ce côté vouloir être très sérieux et en même temps tout de suite vouloir se casser nous-mêmes pour essayer justement de sortir de notre pauvre existence, de ce côté un peu perdant qu'on croit avoir perdu, mais qui en fait existe toujours. Et je pense que c'est à défendre de nous rendre absolument aimables, en tout cas absolument singuliers. Voilà. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qui sont en moi et que j'ai envie de voilà, et en tout cas que j'ai raconté là-dessus, mais que j'aimerais presque continuer l'histoire de ce guerrier nucléaire qui traverse la France et à part de là la France raconte différents territoires justement qu'il essaye de dégayer par toute sa science du mouvement et de la destruction du corps humain. Et je sais pas, on peut imaginer plein de choses, quoi, mais c'est chouette, quoi.
Oui, donc on voit bien comment tu rêves à partir du réel quand même.
Bah dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Mais maintenant...
Cela dit, toutes les œuvres de fiction ont un pied dans la réalité. Ça n'est jamais que de la fiction, que de la réalité réinventée.
Oui, mais tu vois, maintenant, tu vois, il y a deux jours, j'ai eu cette phrase qui a l'air de rien, mais qui dit « Tiens, attrapez le silence ». Et attraper le silence, je me suis dit, ça veut rien dire, mais j'aimais bien cette musicalité-là, puis je trouvais ça un petit peu poétique. Et ben maintenant, en fait, avec cette phrase-là, j'ai réussi à la garder et essayer d'en faire quelque chose. Parce que grâce aussi à un exercice qu'on a fait sur le conte, je me suis dit, tiens, prends ce cadre-là qui t'a un peu plu. Et va essayer de raconter une histoire. Alors, j'ai pas fini de la raconter, mais j'ai déjà mon début, mon milieu, ma fin. Et que ça, en fait, ça, c'est totalement nouveau pour moi, parce que là, pour le coup, c'est pas... Alors, forcément, il y a quelque chose de moi à l'intérieur, mais c'est pas le réel, quoi. C'est vraiment une...
C'est le langage.
Voilà, c'est le langage. C'est le langage, c'est quelque chose de... un oxymore, une contradiction, une fiction, et là, je viens d'ouvrir quelque chose vraiment totalement nouveau en moi.
Tout à fait.
J'en suis qu'au début.
Oui, parce que c'est bien là où la littérature s'ancre. C'est son matériau spécifique, c'est le langage. Et à partir du moment où c'est le langage qui te pousse en avant, qui te mobilise, effectivement, tu entres dans le littéraire de plein pied.
Oui, totalement de plein pied. Et puis surtout... ce qui est extrêmement enthousiasmant, c'est de se dire qu'on est, je suis juste à l'aube d'une nouvelle connaissance de moi-même et aussi donc un nouveau fil qui me permettra de comprendre peut-être encore un peu mieux les autres. Moi, je sais que c'est une des quêtes de ma vie, quoi. C'est vraiment toujours où est-ce que je suis, comment je me comprends et comment je comprends l'autre. Donc tout ça est vraiment, vraiment, vraiment enthousiasmant.
Oui. Mmh. Et tu penses que la littérature t'aide à comprendre?
Oui.
Oui.
Moi, je suis sûr de pas grand-chose.
Mais ça, t'en es sûr.
Sûr et certain. Tous ceux qui aiment lire savent qu'ils ont... C'est une expansion de leur propre vie en passant par la vie des autres, que jamais on pourrait vivre un dixième si on n'avait pas les livres, on n'aurait pas les histoires qu'on aurait autour. D'ailleurs, même avant, même les livres, l'histoire des contes qui se baladaient de pays en pays, de tribu en tribu, de paysage en paysage. C'était parce qu'on a tous besoin de ça, de comprendre qui on est et qui est l'autre, et justement par quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes. Parce qu'on sait tous très bien qu'on est étriqué, qu'on est tout petit, qu'on est chiffonné. Et ce qui nous déplie, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Peut-être que la littérature aussi nous permet de passer d'un point de vue à un autre. C'est-à-dire, ça nous oblige, quand on écrit, à être dans un personnage et dans celui qui s'y oppose. On est au cœur de la contradiction. Peut-être que c'est là aussi où on élargit notre faculté de compréhension. C'est que là, ça n'est pas choisir un camp, mais c'est embrasser la contradiction.
Totalement. Je pense que la littérature nous permet justement d'exprimer des replis de nos âmes, de nos sentiments, de quelque chose, vous voyez, qu'on pourrait avoir caché, mais qu'on retrouve un petit peu. Donc, tous ces points de vue, tous ces échecs aussi, qui nous permettent d'avancer, en tout cas, et d'être un tout petit peu moins bête.
Tu parles souvent de l'échec. On a l'impression que ça tient une place importante dans ta vie.
Oui, parce que j'ai eu mes échecs.
Mais qu'il n'en a pas eu.
Ouais, non, bien sûr, mais... Je suis d'un milieu ou d'un endroit où parler de ses échecs, c'est absolument tabou. Donc, à partir de là, les mots pardon, excusez-moi, mais pas dans le trivial, quoi, dans les choses profondes, de dire genre, j'aurais pas dû dire ça ou je me suis trompé, ça n'est jamais exprimé. Et que je pense que les quelques fois où ça s'est exprimé, de ce que j'ai vu, pour moi, l'humanité parlait, même si c'est un grand mot. Et donc, l'échec, sans avoir à le rechercher, est vraiment fait partie prenante, en fait, de notre propre vérité.
Humanité. Ouais.
Humanité. Et même...
Regarder l'échec en face, ouais. C'est être humain.
Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien de dire le mot vérité dans l'humanité, quoi. C'est encore une fois, même si je vais retomber dans une sorte de discours entrepreneurial absolument ignoble, mais c'est quand même par les échecs, en fait, qu'on arrive à avancer, quoi. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas non plus seulement que d'apprendre et essayer d'être cette version 3.0 de ce qu'on est, mais c'est d'avoir une première image, une première esquisse de ce que c'est le pardon. Et donc, si on peut avoir du pardon pour soi, on peut avoir du pardon pour l'autre. Si on peut avoir du pardon pour l'autre, en fait, ça veut dire qu'on peut véritablement recommencer, pas s'améliorer, recommencer et être quelqu'un de justement infiniment plus bienveillant, quoi. Enfin,
Est-ce que tu penses qu'il y a des gens vides ?
Oui, mais moi le premier. J'ai des moments vides. On a tous des moments vides.
Non, gens qui sont vides. Je pense à tes gars qui dont la vie, c'est gagner du pognon. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont complètement vides ?
Ouais, mais il n'y a pas que chez eux. Mais oui.
Ouais.
Mais chez eux, chez quelques-uns que j'ai vus, c'est pas qu'ils sont vides, mais c'est qu'ils cherchent quelque chose de tellement extérieur à eux. En fait, c'est tellement une statue qu'ils veulent mettre sur la table de... voilà, je suis ça, je suis telle fonction, je suis tel pouvoir, je connais telle personne. Et c'est bien, hein. Moi je dis pas que je veux pas un certain statut, que je veux pas une certaine rémunération, mais qu'en fait, si je dois être défini par ça, pour moi c'est le vide. Voilà. Moi j'ai justement envie de raconter le pas de côté qui permettent de comprendre ceux qui sont dans la matrice. Tu vois, j'ai envie de parler comme ça.
Ouais, ouais.
Tu vois, et j'ai plus envie, voilà, j'ai plus envie de raconter les personnes qui sont absolument pas urbains ou qui sont beaucoup moins urbains. Parce que déjà être juste un peu moins que parisien, que lyonnais, que marseillais, que toulousain, enfin que vraiment la grande ville, c'est déjà être vraiment très très différent. Et là on parle bien, et pour moi il y a même plus de question de religion, de couleur de peau, ni même de classe sociale, beaucoup moins. J'ai plus envie de raconter ça parce que je pense que ça raconte plus de choses.
Et tu as commencé alors ce travail?
J'ai commencé, mais j'ai vraiment commencé, je suis vraiment
au tout début,
même si je commence à avoir un début de structure, mais là ouais, j'aurais une idée de j'aurais envie en fait de raconter ma courte vie que j'ai eue en Italie en partant justement de Paris, où j'ai vécu avec ma femme plein de vignerons nature à différents endroits du pays, et aussi toutes les autres personnes qui tournoyer autour de ça, et qu'en fait j'aimerais le raconter comme une sorte de conte, mais avec ce conte réel, mais qui serait un peu magique, voilà, et de partir de justement de Paris et en avançant, de commencer en fait à trouver la réponse à la question première de Paris que je me pose.
Il y a tout un courant de littérature mexicaine, sud-américaine,
oui.
Qui est complètement là-dedans. Hein,
je ne sais pas.
C'est vrai?
Non, mais moi, j'ai la vérité, c'est que toute ma vie, j'ai lu des essais, j'ai lu des bouquins d'histoire, des biographies, mais vraiment, j'en ai lu beaucoup sur pas mal de choses. Mais la littérature, en fait, j'avais jamais lu jusqu'à il y a 2 ans. Et en fait, j'ai réussi à ouvrir la porte, donc je suis un bébé, totalement.
Est-ce que tu pourrais nous lire un texte?
Je peux lire un texte qui ne sera pas du tout dans ce que je viens de dire, mais ce sera un court texte qui expliquera donc un moment de mon théâtre intérieur.
Bon, on t'écoute.
C'est pas mal. C'est pas mal. 3 petits mots pour rien dire. Pour tout dire. On peut pas dire que c'est ce que j'attendais comme réaction. Bon, d'accord. C'était un premier jet. Enfin, un premier jet qui m'a pris 3 jours quand même. C'est pas mal. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas nul non plus. Ce qui me chiffonne cependant, c'est de n'avoir que ça comme retour. Je sais que je lui impose son avis au dépoté, mais j'aurais bien voulu avoir un petit bout de gras sur lequel on aurait pu discuter. Mais ce sera tout. C'est pas mal. De toute façon, je ne cherche pas la médaille, même si le cancre en moi reste à l'affût. Enfin, moi, quand elle me montre quelque chose, je ne me contente pas d'un « c'est pas mal ». J'encourage, j'argumente, je fais de l'exégèse. Enfin, je joue le jeu, quoi. C'est pas mal. Surtout que c'est pas toujours génial, ce qu'elle fait. Des petits dessins, des aquarelles, des petites scénettes écrites sur son enfance ou sur des instants de vie. Alors c'est sûr, elle fait tout d'un coup. Ça sort tout seul, comme un geyser de confiance, inentamable par le regard de l'autre. C'est pas mal. Non mais quand même, elle est gonflée. Elle se rend compte que j'ai gratté ça avec les 2-3 bouts de pierre anguleux qui constituent mon âme. Elle se rend compte du nombre de ratures, de reprises, du volume de rage que je mets sur ces lignes. Tous ces jours à suer du jus de crâne pour trouver ma partition intérieure. C'est pas mal. Je lui dis ça, moi, quand je lui parle de ces peintres abscons et pédants que personne ne comprend ou ne connaît, les Yayoi Kusama, les Anselm Kiefer ou encore Joseph Heinrich Beuys. La prochaine fois qu'elle m'en parle ou me montre un travail à elle, je lui dirai oui, avant d'achever sur un « c'est pas mal » lapidaire et détaché. Non mais toute cette énergie que je mets pour raconter une histoire, à mettre du sous-texte, à instiller de la référence littéraire intelligente, pour que ça lui plaise. Bon Dieu, qu'elle me le dise que c'est pas bon, que ça ne mérite pas d'exister, que je devrais disparaître de ce bout de caillou bleu perdu au fin fond de l'univers en expansion. Franchement, j'en viens même à me demander si notre histoire a un sens, si je ne suis que pas mal. Alors c'est sûr, Si je suis que pas mal, elle trouvera mieux. Bien sûr qu'elle fera mieux que banal. C'est pas mal. C'est perdu. Bon bah, ça t'a pas plu alors, finit-il par lui dire sur un ton monocorde transpirant d'exaspération. Hein ? De quoi tu parles ? Bah de la nouvelle que je t'ai envoyée, t'as dit que c'était pas mal, alors j'en conclus que c'était pas génial. Ah mais non, t'y es pas du tout ! Je pensais qu'on parlait du restaurant d'hier soir qui était pas mal, mais vraiment sans plus quoi. Ah. Non, non, mais je te fais ça demain. Non, non, mais t'inquiète pas, fais ça quand t'as le temps, c'est pas si important.
T'as un personnage là, qu'on verrait presque en BD, un peu Calimero sur les bords.
Ah bah oui, oui.
Eh bien, grand merci, Tancred, pour cette initiation à ton théâtre intérieur. On va scruter les rayons des librairies maintenant.
On verra ça. Merci beaucoup, Virginie.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am the voice no one can hear. I am drifting for the years.
Vous avez écouté Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez le deuxième mardi et le deuxième dimanche du mois sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Taking